spéciale.
Édition spéciale.
Grande interview sur Radio Intégration.
www.radiointégration.com.
Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale.
L'évolution du processus de l'intégration
en Afrique centrale.
Libre Antenne, c'est sur Radio Intégration.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Madame, bonjour, monsieur, bienvenue et bonjour également. Salut à notre technicien Josué Nabel. C'est monsieur Josué Nabel pour ceux qui préfèrent. Aujourd'hui, la grande interview, c'est 52 minutes. 52 minutes pour dire des choses, défaire des convictions et également pour refaire l'opinion, une certaine opinion qui a tendance généralement à croire que rien ne se fait, tout est souterrain et rien en surface. Cette fois-ci, c'est la grande interview, nous recevons une voix ou alors un personnage qui est bien connu dans la maison. Rosine Yemele, bonjour.
Bonjour, monsieur Leva.
Bon, voilà. On va dire, vous êtes sur les ondes de la radio comme un poisson dans l'eau.
Oui.
Oui, bon, voilà. Peut-être que l'image, c'était une mise en bouche. La mise en bouche consiste justement à vous demander comment est-ce que vous vous sentez une fois que vous reprenez avec la radio que vous avez visitée il y a quelques jours.
Alors, disons que c'est un sentiment de joie. Je suis contente d'être là et j'aime bien le verre du bureau. C'est un verre que je connais aussi ailleurs. Et il est assez apaisant associé avec du blanc. Donc, je vais très bien. Déjà, ma semaine aussi se passe assez bien.
On vous a connu sous le label du challenge des orphelinats. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oh, le challenge inter-orphelinat, c'est très bien.
Ah, voilà, inter-orphelinat, voilà. C'était justement ça l'énoncé.
Il s'est très bien passé. Les 5 orphelinats qui étaient attendus étaient tous au rendez-vous. Les performances étaient très, très bien. On a eu d'ailleurs des adolescents qui ont fait un sketch sur les échasses. Il n'y a qu'au challenge inter-orphelinat qu'on peut voir ça, des échasses de plus d'un mètre de hauteur. Je sais pas si moi je peux faire pareil, mais je ne pense pas parce que même les talons me menacent souvent. Donc, je n'imagine pas sur un demi-mètre de hauteur, mais ces enfants l'ont fait. C'est pour dire que c'était très bien, c'était très beau. On a pu remettre des lots, on a pu remettre des prix et on n'a pas eu d'incident. Ça, c'est vraiment toujours là où je suis souvent inquiète. On n'a pas eu d'incident, on n'a pas eu d'accident. Tous qui sont venus sont rentrés comme ils sont venus. Et bon, pas comme ils sont venus, du moins, c'est parce qu'il y a eu de la joie. Beaucoup ont été contents de rentrer avec des lots, contents de montrer surtout ce qu'ils savent faire. J'ai constaté que c'est ce qui a marqué ces enfants, en fait. De montrer ce qu'ils avaient préparé et de voir les appréciations du public. Ça les a beaucoup touchés. Certains sont rentrés vraiment j'ai la tête dans les nuages, voilà.
Voilà. Rosine Yemele, je rappelle aux nombreux auditeurs de la radio que c'est notre invité dans le cadre de la grande interview. La grande interview, vous le savez, le format c'est 52 minutes d'antenne pour parler, pour défaire les opinions, pour ressouder quelques-unes et également pour, pourquoi pas, dire ou faire passer un message.
Oui.
Vous avez envie de passer un message. La dernière fois, c'était passer le message du challenge inter-orphelinat. Et cette fois-ci, vous débarquez à la radio pour dire quoi. On va parler comme au quartier.
Aujourd'hui, on voudrait parler de la tuberculose, parler du VIH, parler de l'ONG Fils Cameroun, Déjà parce que la tuberculose, c'est une maladie qui est déjà plus d'un siècle.
Est-ce que quand vous prononcez tuberculose, ça fait exactement, sensiblement deux syllabes ou trois? Quand vous dites tuberculose, ça ne vous fait pas peur d'emblée?
Bon, aujourd'hui, ça ne me fait pas peur.
Aujourd'hui, ça ne vous fait pas peur. Bon, mais ça veut donc dire que, ou alors, c'est parce que au quotidien, vous traitez avec les malades tuberculeux ou bien parce que vous avez des acquaintances, je vais dire ça comme ça, vous avez de la proximité avec des données chiffrées relativement à la tuberculose ou bien parce que c'est un domaine tout simplement qui vous intéresse?
Non, aujourd'hui je suis un peu plus à l'aise avec la tuberculose parce que on travaille avec des gens qui ont souffert de cette maladie là. J'ai la chance aujourd'hui de connaître des, bon, c'est vrai qu'on parlait de survivants, aujourd'hui on parle d'anciens malades pour ne plus trop effrayer autour de la maladie. Donc on parle d'anciens malades de la tuberculose. J'en connais autour de moi, j'en ai autour de moi et qui sont des personnes normales comme toutes les autres. On travaille à améliorer le quotidien des patients, du moins de ceux qui sont atteints de la maladie. On fait leur plaidoyer, on fait la communication à leur faveur.
Voilà. Donc, vous faites la communication en leur faveur. Pour la gouverne de nos nombreux auditeurs, on vous a entendu parler d'une ONG. La toute première partie de cette grande interview consistait à parler de cette ONG-là, maintenant ce qu'elle fait au quotidien, et en troisième position, on va évoquer vos perspectives dans le cadre de l'action que vous menez. Alors, vous avez parlé de FIS Cameroun, je rappelle que FIS, c'est F-I-S, pour ceux qui maîtrisent l'alphabet français, l'alphabet de la langue française, et bien FIS Cameroun, Cameroun comme cela s'écrit d'habitude en langue française. Alors, c'est quoi? Qui est FIS Cameroun que vous semblez joyeusement représenter?
Ah oui, l'ONG FIS Cameroun, c'est For Impact in Social Health, c'est-à-dire on voudrait impacter dans le domaine de la santé communautaire. C'est une ONG qui existe depuis fort longtemps, mais c'est vrai qu'elle a commencé comme association en 1996. Et elle a été légalisée en 97, donc disons que c'est déjà presque 27 ans. 27 ans dans la promotion de la santé, dans le domaine de la santé communautaire. À la base, ce n'était pas ONG FIS, à la base, c'était un autre nom, mais qui œuvrait tout de même dans le domaine de la santé. Et c'était, je crois que c'était IST. Au départ, c'était sur les IST parce que c'est une association qui est née d'un groupe d'élèves à l'époque, groupe d'élèves au lycée Leclerc, voilà, groupe d'élèves au lycée Leclerc, qui avaient perdu leur ami de suite de VIH, VIH-SIDA. Donc, ils se sont engagés à ce que cette maladie ne puisse plus leur emporter quelqu'un de cher, ou du moins s'emporter quelqu'un. Donc, c'est comme ça que pendant de nombreuses années, l'ONG FIS
a... Vous parlez bien des élèves du lycée Leclerc.
Oui, c'était des élèves de la classe de terminale. Oui. Donc, c'est à partir de là, c'est ce groupe d'amis qui a d'abord lancé les prémices de l'ONG FIS. Et c'est plus tard qu'elle modifie le nom et devient ONG FIS for Impact and Social Health pour soutenir en ce moment la tuberculose, le VIH et le paludisme. Mais elle est ONG depuis exactement bientôt 4 ans, c'est depuis 2020, voilà, qu'il y a eu l'accord du MINAT d'autorisation, le récépissé du MINAT, voilà, le ministère des affaires.
Le ministère de l'administration territoriale. Oui, c'est bien le MINAT.
Voilà, le ministère de l'administration territoriale, vu que c'est elle qui accorde. Voilà, donc elle a été reconnue d'utilité publique et elle est ONG depuis 2020.
Alors, généralement, il y a quelqu'un qui se cache derrière une ONG, qui est derrière?
Le directeur exécutif de l'ONG FIS, c'est M. Bertrand Campouer, un expert en santé communautaire, assez connu sur le plan national et même international parce qu'il a beaucoup travaillé auprès du Fonds mondial, auprès de l'OMS. Et il continue d'ailleurs à avoir des collaborations de ce côté-là. Donc, c'est un expert de la matière. Oui.
Alors, c'est l'unique expert de la maison, de la boîte?
Bon, disons, c'est le directeur exécutif. Maintenant, tout le reste, c'est sa suite. Donc, nous sommes une équipe de jeunes dynamiques comme ça dans différents domaines. Vous avez des chefs de projet, vous avez des responsables de suivi et évaluation, vous avez moi au niveau de la communication, vous avez les comptables, les financiers, les auditeurs. C'est toute une équipe, c'est à peu près 17 personnes, dont disons environ 20 personnes, oui, auprès de l'ONG FIS, du moins au sein de l'ONG FIS, qui sert de main ouvrière pour qu'on puisse effectivement participer à l'éradication des trois pandémies dont j'ai mentionné, le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Alors, vous, l'ONG FIS, faudrait que nous citions nos auditeurs d'emblée, hein. Elle est basée où?
L'ONG FIS est basée à Yaoundé, au quartier Tam Tam.
Le quartier de Tam Tam, c'est dans l'arrondissement, de Yaoundé 3e.
Yaoundé 3e.
Oui. Biémassi, c'est Yaoundé 3e. Vous dites, ou Yaoundé 6e?
Bon, c'est vrai que Tam Tam est limitrophe. Tam Tam est limitrophe à Biémassi et Foulane.
Oui.
Mais la position de l'ONG FIS.
Bon, si c'est à Biémassi, on va dire Yaoundé 6e, je pense.
Non, c'est Tam Tam du côté de Yaoundé 3.
Voilà, on est assez édifié sur le plan de la localisation des tenants et des aboutissants de l'ONG FIS Cameroun. Maintenant, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Le quotidien de l'ONG, je ne parle pas du quotidien de la personne que vous êtes. Qu'est-ce que vous faites au quotidien?
Au quotidien, l'ONG FIS s'attelle à faire du plaidoyer pour le financement des maladies. Voilà, donc ça passe par la gestion des projets. Donc, ce que nous faisons généralement, c'est, comme je vous ai dit, il y a des chefs projets, plusieurs sont chefs projets. Donc, il faut mener des activités qui permettent de lutter contre la tuberculose, qui permettent de lutter contre le VIH et contre le paludisme. Et ça passe par des projets. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur le terrain du côté des Liquédois pour faire une campagne de dépistage multimaladie, par exemple. Et ça, c'est dans le cadre d'un projet qui vise à améliorer le taux de notification des enfants par rapport à la tuberculose. Oui, à Yaoundé. Et bon, concernant les enfants et les déplacés internes. Donc nous avons des projets que nous menons dans le but de soutenir les patients des différentes maladies. Vous avez par exemple le projet VIH qui est dans le sud. Vous avez plusieurs projets tuberculose que nous menons du côté de Yaoundé. Et parfois même au-delà, parce qu'on a un projet qui porte sur la préparation de la réponse aux pandémies. Celle-là, elle intègre toutes les 10 régions. Donc, parce qu'au moment de l'étude du projet, toutes les 10 régions ont été touchées en fait. Donc c'est un peu ça. Au quotidien, c'est que nous menons des activités liées à des projets qui ont des orientations spécifiques, des objectifs spécifiques. Parce que la tuberculose a des problèmes à plusieurs niveaux. Donc vous allez avoir par exemple un projet comme Stop TB Partnership qui a pour objectif de lever les fonds, de promouvoir le financement de la lutte contre la tuberculose. Parce que c'est actuellement l'une des barrières très très prononcées, une des barrières très sérieuses à lutte contre la tuberculose. C'est qu'on sait que la tuberculose est une maladie guérissable. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de fonds pour faire tout ce qu'il y a à faire pour que la maladie puisse être éradiquée. Donc, il y a ce projet, par exemple, qui appelle au financement de la tuberculose et on s'adresse au gouvernement, on s'adresse aux parlementaires, on s'adresse aux célébrités, on s'adresse aux journalistes, on s'adresse à tout le monde, on s'adresse aux diplomates pour qu'on puisse financer, augmenter la cagnotte de financement de la tuberculose. Le vrai, le pays fait sa part, les financements extérieurs sont là, mais le financement national n'est pas suffisant. Pourquoi? Et pas seulement du côté de l'État, mais le secteur privé.
Oui, pourquoi on va cibler uniquement la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida? Est-ce que parce que le créneau est porteur ou bien parce que les Camerounais en souffrent en grand nombre? Est-ce que c'est un choix délibéré? Pourquoi la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme?
Bon, c'est vrai que je dirais c'est peut-être les fondateurs de FIS qui peuvent répondre, mais quand je regarde depuis que je suis dans le domaine, je dirais ceci, ils ont commencé par le VIH. Et souvenez-vous, ils ont commencé par le VIH parce qu'ils ont eu quelqu'un de touché. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a co-infection entre VIH et tuberculose. Vous savez que la plupart des patients qui sont atteints de VIH, au moins 20% développent la tuberculose. Donc, je pense que c'est forcément ce qui a entraîné qu'on s'intéresse aussi à la tuberculose au niveau de l'ONG FIS avec le temps. Le paludisme, c'est pareil. La tuberculose et le paludisme ont des mêmes symptômes. Vous avez les fièvres nocturnes, vous avez la fatigue, la perte d'appétit, l'amaigrissement. Donc, ce sont des maladies qui, parfois, peuvent prêter à confusion, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir la tuberculose, mais il n'est pas au courant parce qu'il présente principalement les signes de paludisme et il se met à traiter le paludisme pendant un bon bout de temps qui ne finit pas. Donc, je pense que c'est la co-infection. Alors, le lien qu'il y a entre ces différentes maladies qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, on puisse parler de ces trois-là. C'est pas forcément une affaire de porteur. Et je pense que c'est une affaire de victime. Parce que si on a vu autour de soi quelqu'un être victime de la tuberculose et soit se relever, soit en mourir, on voudrait forcément défendre, du moins protéger son environnement et aider ceux qui sont dans cette situation-là.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Oui, en aidant ceux qui sont dans cette situation-là, est-ce que on peut avoir des données statistiquement signifiantes? C'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici sur le terrain? Ou alors est-ce que vous avez des chiffres qui sont là pour étayer l'action que vous menez?
Je vais donner le chiffre le plus récent que nous avons lié au projet TBP Carobas 2.0, celui que je dis qui vise à faire progresser les cas de notification des enfants. Entre mai et juillet, nous avons mis 83 enfants sous traitement. Mm-hmm. Donc vous comprenez donc que c'est 83 enfants qui ont été dépistés et qui sont mis sous traitement. Donc je prends déjà cette base-là parce que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, beaucoup en meurent de la tuberculose. On parlait de 214 000 personnes qui meurent dans le monde, je crois, chaque jour par rapport à la tuberculose. Donc, si des gens au Cameroun, on peut faire notifier, parce que le problème principal au Cameroun, c'est la sous-notification. Moi, c'est l'un des problèmes principaux. Mm-hmm. La sous-notification, c'est-à-dire quoi? Parce qu'on est stigmatisé, parce qu'on est discriminé ou parce qu'on est même ignorant de la maladie et de ses symptômes, on ne va pas aller à l'hôpital. Par exemple, je prends...
Ou alors, on croit à la sorcellerie.
Oui, il y a aussi ça, voilà. Donc, déjà que l'un des signes de la tuberculose, c'est la toux. Donc, vous allez voir quelqu'un avec la toux, on va traîner. Déjà, pour certaines personnes, la toux, c'est pas une maladie. Donc, quelqu'un peut tousser même pendant 6 mois, pendant 1 an, et pour lui, c'est normal. Mm-hmm. Il ne va pas chercher de traitement parce que bon, ça peut aller, ça ne gêne personne. Et même si je tousse, ça fait quoi? Donc, vous avez des gens qui négligent la toux, qui négligent leur santé comme ça. Mais vous avez aussi des gens qui ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils vont se dire, ok, si je pars et qu'on découvre que c'est la tuberculose, on va m'éloigner de ma famille, ou on va me mettre à l'écart, on va me pointer du doigt et tout ça. Donc, on a ces signes-là qui font en sorte que, cette situation qui font en sorte qu'on a très peu de cas notifiés. Donc, maintenant, il faut aller dans les familles, il faut aller dans les maisons, il faut aller dans les quartiers pour toucher ces personnes-là, pour vérifier que dans cet environnement, il n'y a pas de personnes atteintes de tuberculose. Mm-hmm. Parce que c'est une maladie qui se répand au travers de l'air. Donc, si on laisse une seule personne infectée, on va forcément infecter encore 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 personnes. Mm-hmm. Déjà, nous savons très bien dans quel pays nous sommes avec la promiscuité, avec la pauvreté dans certains quartiers. Je vais même dire dans la majeure partie des endroits où la majeure partie de la population vit. Vous avez des endroits où on a 5-10 personnes dans une chambre ou bien dans un studio. Imaginez, une seule personne est contaminée ou est atteinte de tuberculose là-bas, ça va être compliqué. Ça va forcément se répandre. Donc, il faut que la notification soit faite. Donc, un projet, par exemple, comme TBP qui permet qu'on puisse détecter les cas et les mettre sous traitement, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et l'avantage, c'est que le projet n'est pas fait uniquement au niveau des FIS. On travaille en partenariat avec le programme national de lutte contre la tuberculose, dont nos données sont vérifiées, nos données sont certifiées par eux. Donc quand je dis par exemple qu'on a mis 83, on a détecté 83 cas et qu'on a mis sous traitement, c'est qu'on est en train de sauver déjà au moins 83 vies et tous ceux qui sont aux alentours. Parce que si vous avez les enfants infectés, l'enfant n'a pas, je vais dire quoi, il n'a pas créé la maladie. Mais il faut regarder autour de lui, est-ce qu'il n'y a pas des cas contact, est-ce qu'il n'y a pas des cas index, et le projet permet de le suivre. On a un autre projet, par exemple, les TB People, les suivants de la tuberculose, ceux-là s'intéressent aux adultes. Donc, si un enfant a fait la maladie, forcément, il faut regarder dans l'entourage, est-ce qu'il n'y a pas un adulte qui a fait la maladie, ou alors, est-ce que ce n'est pas l'adulte qui a transmis à l'enfant. Ça permet aussi qu'on puisse dépister les adultes et qu'on puisse les soutenir, que ce soit même parfois financièrement parce que les appuis nutritionnels. Vous savez que la tuberculose est une maladie qui a beaucoup de... Tu vas dire quoi? Ça a un impact intégral sur le corps, en fait. La tuberculose a ce fâcheux défaut que même au niveau du traitement, il faut...
Ah, si elle a un fâcheux défaut, a-t-il d'agréable qualité? A-t-elle d'agréable qualité?
Bon, c'est juste pour faire la différence avec d'autres. Les autres maladies n'ont pas cette particularité-là. Oui. C'est-à-dire de vous creuser la famille. Le traitement de la tuberculose vous impose de manger énormément. Or, nous savons que la tuberculose touche particulièrement les populations vulnérables, c'est-à-dire ceux qui manquent de moyens. Donc, maintenant, imaginez, même comme le traitement est gratuit, tu prends le traitement et ça te creuse la famille, ça te donne les vertiges, ça te donne les nausées, tu vas t'écrouler. Est-ce que tu vas être encouragé à prendre encore le traitement? Donc, il faut aussi un appui alimentaire vers ces personnes qui sont malades. Donc, on a des projets qui permettent de le faire. TB Pack, TB People. Donc, on apporte aussi l'appui alimentaire. On apporte même l'appui, le soutien médical. Parce que vous avez certains, puisqu'il y a plusieurs types de tuberculose, vous avez certains qui viennent, il faut des examens coûteux. Et comme je disais encore, ça touche les populations vulnérables. Donc, il faut les appuyer avec parfois un 10 000 pour faire la radio. Parfois, il faut soutenir à peu près à 50-60% les frais d'un examen qui coûte peut-être dans les 90 000. Donc, parce que c'est le traitement qui est gratuit, c'est-à-dire le protocole. Mais les examens, il faut les payer. Il faut payer pour évaluer ton évolution. À quel niveau est ton poumon? Comment est-ce que ça se passe? Donc, ça, il faut les payer. Donc, il y a aussi ce projet qui permet de soutenir ces personnes affectées-là. Maintenant, en dehors de ça, on parle aussi beaucoup de sensibilisation parce que on voudrait aujourd'hui que les questions de droits humains déjà soient prises en compte dans le traitement de la tuberculose. La façon dont on va parler à un homme de la tuberculose ne devrait pas être de la même façon pour la femme parce que chacun a ses spécificités.
Tout à fait.
On sait par exemple que de façon générique, l'homme n'aime pas vraiment aller à l'hôpital. Alors comment est-ce que tu fais pour l'amener à aller à l'hôpital quand il a déjà des signes et symptômes de la maladie? Pareil pour la femme à qui il faut s'adresser, de comment est-ce qu'il faut prendre s'occuper de la famille et tout ça. Si je prends le plan culturel, parce que quand on parle de communauté, droit et genre, il faut aussi regarder. Vous allez par exemple dans le nord où il ne faut pas s'adresser directement à une femme. Comment est-ce que tu fais pour passer le message? Donc il y a tout ça qu'on prend en compte parce que l'objectif actuellement, c'est d'éradiquer la tuberculose d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif que les Nations Unies ont fixé. Il faut qu'en 2030, on ne parle plus de tuberculose. Donc, toutes les barrières sont vraiment en train d'être... On a localisé toutes les barrières. Maintenant, on met sur place des stratégies pour pouvoir les lever, pour pouvoir les éradiquer. Et les deux principales barrières, du moins les deux domaines sur lesquels on s'appuie actuellement, c'est le financement et la communauté droit et genre. Parce que beaucoup de patients ne connaissent même pas les droits. Vous allez arriver même en plein hôpital, on les stigmatise, ou on les discrimine, ou on s'adresse mal à eux, ou on ne respecte pas leurs droits, mais ils ne savent pas vers qui se tourner. Donc il faut vraiment de la sensibilisation autour de la maladie.
Oui, j'aimerais qu'on s'apesantisse un peu sur le paludisme qui, selon les données de l'UNICEF, terrasse au moins 1000 enfants chaque heure en Afrique centrale. Alors, comment est-ce que l'ONG FIS Cameroun aborde la question du paludisme? Nous allons d'abord parler du plaidoyer. Est-ce que vous menez un plaidoyer pour la gratuité du traitement? Bon, commençons par là.
C'est vrai que niveau paludisme, l'ONG FIS n'est plus trop dans le paludisme. On n'a pas de projet paludisme depuis un bon bout de temps. FIS, du moins, je vais dire quoi, la tête pensante s'est focalisée sur la tuberculose parce qu'on veut participer à l'éradication. Donc actuellement, FIS est au niveau national, on est plus positionné au niveau de la tuberculose. C'est-à-dire, si on recherche quelqu'un qui maîtrise un peu les rouages de la tuberculose, c'est, on va parler de l'ONG FIS. Donc, chez nous, c'est plus tuberculose.
Vous avez des ONG concurrentes ou alors des ONG partenaires qui font dans le même créneau?
Bien sûr qu'il y a des ONG concurrentes qui sont dans la lutte contre la tuberculose. Et généralement, ils font les trois maladies. Mais maintenant, en fonction de votre expérience, de votre background, vous pouvez décider d'être focalisé sur une maladie en particulier. Donc, actuellement, au niveau des FIS, c'est plus tuberculose. Vraiment être leader au niveau de la tuberculose, que les décisions au plan national, même international, ne se prennent pas sans que l'ONG FIS n'ait participé, mais c'est surtout tuberculose.
Oui, vos rapports avec le ministère de la Santé publique?
Oh, nous avons de très bons rapports avec le ministère de la Santé publique. Nous avons fait organiser une réunion régionale en juin. Et c'était sous le patronage du ministère de la Santé, du ministre de la Santé, qui a dépêché son secrétaire général pour le mot d'ouverture parce que lui n'était pas dans la ville. Et quand je parle du programme national de lutte contre la tuberculose, c'est une branche du ministère de la Santé. Donc nous collaborons étroitement avec le programme national de lutte contre la tuberculose et la direction de lutte contre la maladie, les épidémies, les pandémies, ce qu'on a appelé la DELMEP. On collabore très étroitement. On ne fait aucune activité sans informer, sans impliquer au moins un de ces deux partenaires. Et en fait, ce sont eux qui représentent le ministère de la Santé sur le terrain dans notre couloir. Le couloir de la tuberculose, VIH et paludisme, ce sont les deux structures-là qui représentent principalement le ministère de la Santé. Donc, c'est maintenant quand il y a un événement ou alors un atelier ou quelque chose d'envergure qu'on va demander vraiment quelqu'un qui est au ministère de la Santé. Mais sinon, la direction de la lutte contre la maladie, les épidémies, les pandémies représente valablement le ministère de la Santé à certains niveaux d'intervention. Et nous travaillons, nous avons de très très bonnes relations avec eux. Ils sont au courant de tous les projets que nous menons à FIS et ils prennent part à toutes les activités que nous implémentons. Je vous ai dit par exemple les données que nous validons dans le projet TBPEC, c'est avec le PNLT et avec la DELMEP également. Pareil pour le projet, par exemple, Stop TB, où je dis qu'il faut impliquer les parlementaires et autres. Ils sont au courant du projet, de la mise en œuvre, de l'évolution. Tous les autres projets, même celui de la préparation, la réponse aux pandémies. Mm-hmm. Nous avons fait un atelier la semaine dernière et tous ces parties prenantes y étaient. Parce que seul, on ne peut pas. Seul, on ne peut vraiment pas. Donc, nous avons la couverture du ministère de la Santé pour nos activités, pour nos actions, pour tout ce que nous faisons.
Un package intéressant, celui de FIS Cameroun. Nous vous revenons juste après cet intermède. Retour dans ce studio, nous sommes toujours en compagnie de Rosine Yemele. Rosine Yemele, je vous le rappelle, c'est une habituée de la maison. Et puis cette fois-ci, elle nous revient avec la casquette de chargée de communication pour le compte de l'ONG FIS Cameroun. FIS Cameroun, vous avez dit, vous rappelez que cet acronyme veut dire
For Impact in Social Health.
For Impact for Social Health. Vous savez, mon accent british n'est pas très appuyé. Bon, voilà. Nous sommes donc rendus à la seconde partie de cet entretien. La seconde partie de cet entretien, nous avons promis à nos auditeurs d'évoquer vos actions sur le terrain. C'est-à-dire qu'on entre maintenant dans le concret. Qu'est-ce que l'ONG, je ne veux pas vous poser la question, ce que l'ONG a fait jusqu'ici de façon globale, mais j'aimerais qu'on s'oriente un peu, ou alors qu'on en parle sous les guillons des actions concrètes concernant la tuberculose, avec sur une période donnée. Nous sommes en 2024, vous existez depuis, vous avez dit, 1996. Mmh. Mmh. Alors, si on prend de 1996 à ce jour, ça fait un petit jeu d'arithmétique, vous permet d'avoir combien de temps?
28 ans.
En 28 ans, qu'est-ce que vous avez fait comme action d'éclat? Vous avez soigné combien de tuberculeux? Vous avez aidé combien? Vous avez approché pour combien de parlementaires? Qu'est-ce que vous... Citez au moins... une ou deux actions d'éclat. Et c'est à partir de là, nous vous revenons.
Alors, moi, je suis pas à l'ONG FIS depuis 96. Donc, je vais aller sur les trois dernières années.
Oui.
Et je dirais que l'action d'éclat que nous avons pu réaliser déjà, c'était l'organisation d'un dialogue national dans le cadre de la préparation de la réunion onusienne, la réunion internationale, du moins la réunion de haut niveau qui avait lieu en septembre 2023. Mmh. Oui, parce qu'il fallait la participation nationale et l'ONG FIS à travers, l'organe Stop TB, parce qu'il faudrait comprendre qu'au niveau de l'ONG FIS, il y a d'autres petites structures. Il y a par exemple Stop TB Partnership Cameroun, il y a Draft TB qui est à niveau régional, il y a TB People. L'association des suivants de la tuberculose dont je parlais. Donc, c'est comme des associations hébergées dans l'ONG FIS. Nous assurons le secrétariat. Donc, à travers Stop TB, on a organisé ce dialogue national en préparation à la réunion de haut niveau, ce qui fait que le Cameroun a pris part à cette réunion et tout s'est très bien passé. Donc, en fait, ça montre la dimension du plaidoyer où l'ONG FIS peut arriver. Et en termes de parlementaire, oui, on a mobilisé lors de la réunion régionale qu'il y a eu récemment dont je parlais, on a mobilisé 5 parlementaires qu'ils ont fait des vidéos pour donner leur appui, leur soutien, qui ont pris des engagements à faire quelque chose dans côté finance de la tuberculose, dans le financement de la tuberculose au Cameroun. Voilà. Et qu'est-ce que je vais encore mentionner? Le projet TBPEC qui a fait progresser véritablement le cas de notification des enfants. Mm-hmm. Parce que c'est un projet qui a débuté l'année dernière et c'était en phase d'essai et ça a été validé en phase d'essai. Donc là nous sommes à la première année, ça doit se tenir sur 2 ans et peut-être passer à l'échelle nationale. Ce projet a boosté les résultats, boosté le cas de notification de la tuberculose pédiatrique en fait. Parce que c'était un peu négligé. Jusqu'ici, la tuberculose, on pensait plus à l'adulte, mm-hmm. peut-être un peu aux jeunes.
Voilà qui est
mais
intéressant.
Le côté de l'enfant était vraiment négligé.
Oui, voilà qui est intéressant. Les chiffres au Cameroun disent quoi à propos de la tuberculose pédiatrique? Vous qui êtes si impliqué dans le domaine, vous qui semblez très intéressé par cette thématique, la thématique de la tuberculose des enfants, ou alors vous avez appelé ça tuberculose pédiatrique.
Bon, j'ai pas les chiffres exacts, mais on peut les trouver sur le site internet du PNLT, le Programme National de Lutte contre la Tuberculose, mm-hmm. parce que ce sont eux au Cameroun qui sont habilités à donner les chiffres en termes d'évolution de la tuberculose, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Donc, c'est mieux de se rendre sur le site du Programme National de Lutte contre la Tuberculose.
Alors, mais maintenant, que fait votre ONG quand vous voyez un enfant tuberculeux? Vous avez un cas de tuberculose sous la main,
oui.
ou alors devant, sous vos yeux. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'ONG?
Alors, l'ONG à travers le projet TBPEC a des agents de terrain, a des agents de, comment ils appellent encore, les AEC. Les agents de santé communautaire, voilà, sur le terrain, qui vont dans les quartiers, comme je disais dans la première mm-hmm. partie, pour localiser les familles et tout. Donc, ce sont eux qui vont être au courant de ce cas, par exemple. Et quand ils sont au courant d'un enfant qui a des signes et symptômes, ben c'est pas au quartier qu'on m'a dit que l'enfant a la tuberculose. Mm-hmm. Donc, quand on voit quelqu'un, un enfant de 0 à 14 ans qui a des signes, qui présente des signes et symptômes de la tuberculose, on le refait dans un centre de santé, le centre de santé le plus proche, le centre de diagnostic et de traitement. Donc, c'est après avoir évalué, c'est après le diagnostic, en fait. Si le diagnostic sort donc positif que l'enfant est atteint de tuberculose, on le met directement dans le circuit de traitement. Dans cet hôpital. Et l'ASC est censé suivre l'évolution de l'enfant. Parce qu'il faudrait, il y a des périodes de testing. Je crois qu'il y a 2 mois, il y a 6 mois. Mm-hmm. Il faut vérifier. Et je voudrais profiter pour rappeler d'abord aux auditeurs que, pour ceux qui connaissent la tuberculose, il faudrait savoir que si vous avez quelqu'un qui est atteint de tuberculose et qui prend son traitement, à deux semaines de traitement, on n'est plus contagieux. Parce que les patients tuberculeux souffrent énormément de stigmatisation et parfois même d'auto-stigmatisation. Donc, je fais cette virgule pour dire qu'à 2 semaines de traitement, respecté, on n'est plus contagieux. Donc, on peut manger avec les autres, on peut rester dans la même pièce avec les autres, on peut échanger sans problème. Mm-hmm. Voilà. Donc, pour revenir donc sur le cas de cet enfant, je disais, une fois que c'est diagnostiqué qu'il a atteint de tuberculose, on le met dans le circuit de traitement.
Quand vous dites, excusez-moi, nous sommes africains, quand vous dites on le met dans le circuit du traitement, ça veut dire, vous avez dit que la tuberculose touche généralement les familles démunies.
Oui.
Quand une famille ou alors un parent démuni
oui.
vous entend parler, vous dites que vous mettez l'enfant dans le circuit
dans
de
le
traitement,
circuit de traitement,
ça veut dire quoi?
C'est l'ONG qui paye le carnet.
Vous le prenez en charge.
Déjà, la tuberculose est gratuite au Cameroun.
Allons-y.
Le traitement est gratuit.
C'est parce que je voudrais que nos auditeurs comprennent bien et fassent la différence entre toutes les rubriques que vous avez évoquées, c'est-à-dire le traitement, la prise en charge ou alors les examens. Il faudrait que
D'accord.
C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect.
Le traitement de la tuberculose étant gratuite, quand on dit vous mettre dans le cycle de traitement, c'est que, ok, une fois qu'on sait que cet enfant est atteint de tuberculose, le cycle de traitement voudrait dire qu'on se rassure qu'à l'hôpital, parce qu'en fait, ceux qui sont chargés de faire la prise en charge de la tuberculose sont rattachés à l'ONG, dans certains hôpitaux en tout cas. Mm-hmm. Que, actuellement, nous sommes dans 35 formations sanitaires. Mm-hmm. C'est vrai, on couvre pas tout le pays, mais au niveau de 35 formation sanitaire, c'est pas petit. Donc, dans la région du centre, on a 35 formations sanitaires où vous allez venir avec l'enfant. C'est l'ONG FIS qui va payer, par exemple, le carnet de l'enfant. Mm-hmm. Il y a l'appui de transport. On donne le transport, c'est la famille au niveau du transport, c'est-à-dire on donne le transport pour qu'on puisse amener l'enfant à l'hôpital. Mm-hmm. Oui, il y a l'appui nutritionnel, comme je disais.
Oui.
Pour ceux qui sont vraiment indigents, oui, il y a des appuis nutritionnels qu'on donne par période pour l'alimentation de l'enfant. Il y a aussi des frais d'examen, comme je dis. Mais pour ça, donc, il faut être dans les 35 FOSA. Je maîtrise pas la liste des 35 FOSA, mais sachez qu'il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Mm-hmm. Tous les hôpitaux ne sont pas des centres de diagnostic et de traitement. Mm-hmm. Mais du moment où vous allez dans un centre de diagnostic et de traitement et que vous trouvez que l'ONG FIS est là-bas, je vais dire quoi, l'ASC, l'Agence de santé communautaire, et même le chef du centre de diagnostic et de traitement, ils savent, du moins, ils vont vous mettre dans le circuit de traitement de l'ONG. C'est-à-dire quoi, on est au courant à notre niveau qu'il y a un enfant qui est arrivé et qui est atteint de tuberculose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Si l'enfant a besoin d'une radio, on va nous informer et on verra au moment précis comment libérer les fonds, vu que c'est financé en fait. Il y a des lignes budgétaires pour ça. Ça ne sont pas des poches de l'ONG. C'est un projet. Donc, on a soumis au bailleur, le bailleur a accepté de soutenir la maladie. Donc, il y a des fonds qui sont prévus pour le transport, comme je disais, pour la nutrition de l'enfant, pour payer des examens. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait détecté de la base. Donc, normalement, pour la tuberculose, une famille indigente qui est dans un centre de diagnostic et de traitement, il n'y a vraiment pas de frais à payer.
Il n'y a pas de frais à payer.
Donc... Et même si c'est préfinancé, on vous devrait être remboursé.
Oui.
Oui, vous pouvez préfinancer parce que l'argent va arriver plus tard. Mais c'est remboursé. Le traitement de la tuberculose est totalement gratuit au Cameroun.
Oui. Il faudrait que les gens, les uns et les autres, le sachent bien. Ça sort de la bouche d'une personne très impliquée dans ces choses-là, le traitement, voilà, la prise en charge de la tuberculose. Maintenant, quand vous parlez de la prise en charge de l'acheminement vers les hôpitaux, on sait généralement que, ici à Yaoundé par exemple, c'est le centre JAMO qui s'occupe des tuberculeux. Est-ce que il n'y a pas d'autres structures sanitaires vers laquelle vous dirigez les malades?
Si, il y en a d'autres. Il y a d'autres structures. Que ce soit à la Fondation Chantal Biya, il y a un centre de diagnostic et de traitement. À la Cité Verte, il y a un centre de diagnostic et de traitement. À Ifoulani, il y a un centre de diagnostic et de traitement. L'hôpital de Bieba, si, est un centre de diagnostic et de traitement. L'hôpital de Saint-Vogbeti, je crois, Saint-Martin de Porres.
Et toutes ces formations sanitaires que vous citez là, l'ONG FIS Cameroun.
Oui, en fait, je cite ce que moi j'ai découvert là-bas. C'est pas que j'ai trop fréquenté les hôpitaux. Mm-hmm. Mais je sais que les collègues qui travaillent sur le projet TBP, qui font des descentes dans ces différentes formations. Et je vous ai dit, il y en a jusqu'à 35 formations sanitaire avec lesquels nous sommes partenaires. Et ce sont des formations en fait où il y a des centres de diagnostic et de traitement. Mmh. Ou alors qu'on peut facilement vous rattacher à un centre de diagnostic et de traitement. Donc il n'y a pas que JAMO. JAMO, c'est peut-être là où on interne une personne, oui, pour le traitement, mais pas, c'est pas le seul endroit et c'est pas obligé d'être interné. C'est pas, je vous ai dit, à 2 semaines de traitement, on n'est plus contagieux. Donc, si vraiment on vous interne à JAMO, ça veut dire, c'est assez avancé. Donc, il faudrait que vous soyez d'abord dans un milieu bien sécurisé, bien professionnel et adéquat pour votre traitement. Mais si c'est un enfant, non. Si c'est un enfant, non.
Mm-hmm. Alors, on a envie de vous demander qui finance l'ONG FIS Cameroun.
Alors, on finance pas l'ONG, on finance les projets de l'ONG.
Il faudrait bien que l'ONG, bon, je vais poser la question d'une autre façon. L'ONG, où est-ce que vous puisez vos ressources?
Les partenaires internationaux.
Qui sont-ils?
Expertise France Initiative, le Forum Mondial, Stop TB UNOPS. Je crois aussi le GCTA. Je sais plus ce que ça signifie exactement dans sa définition. Mais sinon, il y a un autre partenaire qu'on appelle le GCTA. Voilà, c'est Global Coalition.
Bref, bon, ne vous lancez pas dans des définitions qui risquent de nous porter préjudice après.
Donc voilà les partenaires principaux que j'ai cités en fait, ceux qui soutiennent la plupart des projets qui sont actuellement mis en œuvre. Donc vous avez parfois un partenaire qui soutient deux projets. Par exemple, au niveau de Stop TB, on a Stop TB Round 12, celui-là qui permet d'intégrer toutes les parties prenantes dans la lutte contre la tuberculose. Mm-hmm. Quand je parlais des parlementaires, des journalistes, des célébrités et autres. Maintenant, vous avez un autre projet Stop TB qui touche le CRG, c'est-à-dire trois communautés genre. Voilà. Mm-hmm. Je vais revenir à votre question. Vous avez demandé tout à l'heure un autre impact de l'ONG FIS.
Oui, tout à fait.
Oui. Il y a aussi quelque chose de phénoménal que nous sommes en train de faire. Nous voulons institutionnaliser une application qui s'appelle One Impact. Ça permet de lever beaucoup de barrières aussi dans la lutte contre la tuberculose.
Oui, nous allons en parler dans la dernière partie de notre entretien. Juste le temps pour notre ami José Napal de nous reprendre, n'est-ce pas, l'immense Toto Guillaume qui, on vous le rappelle, faisait partie de l'équipe nationale du Makossa. C'est sur la radio, c'est sur les ondes de Radio Intégration. L'émission que vous écoutez actuellement, c'est la grande interview. C'est 52 minutes, on l'a dit, en format entretien. Josué.
Amen, 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 amen
Retour dans ce studio, Jean-René Mavamogo micro. En face, nous avons Rosine Yemele. À la technique, c'est toujours Monsieur Josué Nabral. L'émission, vous le savez déjà, c'est la grande interview. Rosine Yemele, nous revenons à vous. Les perspectives de Fils Cameroun. Dans l'immédiat, qu'est-ce que vous entendez faire pour les malades tuberculeux? Vous allez distribuer de l'argent ou alors des médicaments tuberculeux? Qu'est-ce que vous allez faire dans l'immédiat?
Non, nous ne traitons pas avec les médicaments.
Vous traitez avec quoi? Avec des plaidoyers.
Oui, nous faisons plus de plaidoyers.
Alors, quel est le plaidoyer que vous allez engager d'ici une ou deux heures ou un jour?
Disons que c'est cette campagne de dépistage multimaladie que je vais dire qui se tenait aujourd'hui. Dans partie des chiffres encore, nous allons voir comment générer un autre plaidoyer. Mais l'acte que nous posons en ce moment d'envergure, comme je disais, c'est l'outil One Impact. Parce que toutes ces données que nous avons, toutes ces réalisations, toutes ces expériences de terrain que nous avons, nous a permis de mettre sur pied, ou alors d'amener au Cameroun une application qui permet véritablement d'aider les patients tuberculeux. Et même toute autre personne, en fait.
Qu'est-ce que cette application a-t-elle de particulier?
L'application One Impact a de particulier qui vous donne toutes les informations sur la tuberculose. Ça veut dire si aujourd'hui là, quelqu'un qui m'écoute ne sait rien de la tuberculose ou bien il a des appréhensions, qu'il aille télécharger sur Play Store ou App Store l'application One Impact Cameroun.
Vous reprenez ce segment, qu'il aille, que cette personne aille sur...
Oui, sur Play Store ou sur App Store, il tape One Impact Cameroun, One comme un en anglais, O-N-E. En un mot aussi, Impact, I-M-P-A-C-T.
Donc oui, est-ce que c'est une exclusivité de l'ONG Fils Cameroun?
Au Cameroun, oui, c'est uniquement l'ONG Fils qui met en œuvre cette application, cette activité.
Allons-y.
On a d'autres qui sont déjà en train d'arriver. On a d'autres partenaires qui veulent, d'autres associations, ONG, qui veulent aussi mettre sur pièce une plateforme numérique pour la tuberculose, mais tous veulent donc se rejoindre sur One Impact pour ne pas avoir une cacophonie. Donc comme je disais, One Impact vous donne toutes les informations sur la tuberculose, le traitement, il vous donne la localisation, le centre de santé le plus proche comme je disais. Il vous permet d'être en contact avec une communauté de personnes concernés par la tuberculose, que ce soit les anciens patients, que ce soit les médecins, que ce soit les agents de santé communautaire, comme je disais, qui peuvent vous donner, partager leur expérience de la tuberculose, leur connaissance de la tuberculose avec toi. Ça te permet d'avoir cette instabilité, un certain équilibre, en fait. Parce que la tuberculose, c'est quelque chose d'assez particulier. Vous pouvez avoir 100 patients de tuberculose et 100 symptômes différents, du moins 100 manifestations différentes. L'autre va vous dire, moi, je ne toussais même pas. L'autre va vous dire, moi, je toussais du sang. L'autre va vous dire, moi, je perdais seulement du point ne comprenait pas. Donc vous voyez que c'est des symptômes qui peuvent faire peur à quelqu'un. Donc ça, et quand maintenant tu sais que c'est la maladie dont tu souffres, avoir cette communauté te permet, c'est un peu comme un groupe de soutien en fait. Tu peux parler avec les autres pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu la maladie, comment est-ce qu'ils ont vécu la stigmatisation, parce que ça ne manque pas. Donc avoir cette communauté te permet aussi d'avoir un groupe de personnes qui te comprennent, qui sachent pas où est-ce que tu es passé ou bien qu'est-ce qui t'attend même devant, qui te donne des conseils. Donc on a particulièrement encore sur l'application One Impact un point pour signaler les barrières. Ça veut dire quoi? Je suis patient de la tuberculose, j'arrive à l'hôpital, il y a un problème de médicaments ou bien on veut me soudoyer pour avoir les médicaments ou bien on m'a stigmatisé, on m'a maltraité. Je vais dans l'application One Impact, j'écris qu'à tel endroit, voici le problème qu'on rencontre. On a beaucoup de patients qui utilisent ça pour dire ici, il n'y a pas de médicaments. Ici, voilà comment on se comporte. Ici, ici, ici. Et ça revient à notre niveau, au niveau de l'ONG Fils, parce qu'on a quelqu'un qui est responsable du suivi du tableau de bord. Donc, chaque mois, je vais me dire, c'est même pas chaque mois, parce que il faut être proactif. Donc, on évalue, on suivait ce tableau de bord là fréquemment pour voir est-ce qu'il y a eu des barrières signalées.
Oui. Et quand on signale les barrières. Au passage, votre fichier malade, il pointe combien à peu près aujourd'hui?
Bon, ça, je ne maîtrise pas parce que ce n'est pas un projet. Oui, donc c'est dans le projet Team IPEX, le chef projet qui peut vous dire oui. En fait, comme je dis, je n'ai pas les données.
Oui.
Mais si j'étais avec le chef projet, j'aurais demandé, par exemple, l'année passée, pour le projet Team IPEX, on a en tout touché combien d'enfants, par exemple? Combien de familles ont été soutenues? Ça, il y a des données. Et comme je dis, moi, je retiens l'idée générale en tant que communicatrice.
Alors, nous sommes Fils Cameroun et résolument tournés vers le digital à travers cette application que vous avez évoquée. Vous la rappelez, elle s'appelle
One Impact Cameroun.
Et cette application vous permet de suivre le malade de bout en bout. et de voir les difficultés qui sont les siennes, vous m'avez dit.
Bon, pas nous de suivre le malade.
Au malade de suivre.
De pouvoir être à l'aise, d'être dans une communauté, d'avoir les informations, de connaître ses droits,
oui.
etc. Et de signaler les barrières, comme
voilà.
vous disiez.
Voilà. Alors, cette application, vous avez dit qu'elle est disponible sur Play Store.
Et App Store.
Et est-ce que, quand on connaît le taux de pénétration d'Internet au Cameroun, est-ce que le tuberculeux qui se retrouve dans un village que je ne vais pas nommer ici au Cameroun, qui n'a pas d'électricité déjà, qui n'a pas d'internet, comment est-ce qu'il peut avoir accès à cette application?
Déjà, on sait que les applications marchent avec les téléphones Android. Donc, la variante qui est assez intéressante pour One Impact, parce qu'on ne va pas créer ce qu'il n'y a, on va pas créer de téléphone sans fil ou bien de, c'est pas à nous de créer le téléphone.
Oui.
On a une application, mais on est en train de voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça marche dans des téléphones qu'on appelle les Turoko. Oui, ça, c'est un pan qu'on est en train de développer.
Jésus Naba, c'est ce qu'on appelle Turoko. C'est de quoi voilà. nous parlons.
Donc, c'est ça, par contre, on est en train de réfléchir à le prendre en compte. Mais actuellement aussi, ce qui est intéressant, c'est que celui qui est dans la zone reculée, vous avez au niveau de l'hôpital, au niveau du CTD, comme je disais, l'ACRA superviseur ou le chef du centre de diagnostic et traitement qui a un téléphone Android. Lui, par contre, ça lui permet de suivre les patients. Oui, parce que quand tu viens, il te fait enrôler et ça lui permet de le suivre. Du moins, chaque fois que tu vas revenir, il enregistre tes données à l'intérieur et ça permet que lui puisse être au courant qu'il y a telle personne qui est passée il y a peut-être un mois. Aujourd'hui, il fallait peut-être qu'il soit là pour suivre son traitement ou bien pour telle phase. Et il peut envoyer quelqu'un de trouver chez toi parce qu'il faut remplir la localisation et tout ça. Donc ça, c'est ce qui est vraiment intéressant avec One Impact. On n'a pas encore de formule, c'est-à-dire on ne va pas créer une formule qui n'a pas de téléphone. Oui, donc mais par contre on réfléchit de comment est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse marcher avec au moins le Turonco.
Alors nous sommes arrivés sensiblement au terme de cet entretien. Rosine Yemele avait-elle quelque chose que nous n'avons pas évoqué ici et qu'elle aimerait absolument évoquer?
Disons simplement que je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. La tuberculose, ce n'est pas une fatalité. On a des gens qui sont guéris de tuberculose. Après 2 semaines de traitement, on n'est plus contagieux. Donc évitons de stigmatiser les gens, c'est-à-dire de pointer du doigt, d'appeler des gens de tous les noms. La tuberculose, c'est pas la sorcellerie, c'est pas une punition divine comme certaines pensent. C'est une maladie comme toutes les autres et on en guérit. Le traitement au Cameroun est gratuit. Vous allez à l'hôpital le plus proche, si c'est une affaire de tuberculose, vous allez être orienté, redirigé. Vous suivez votre protocole. C'est 6 mois de traitement. À 6 mois, on est totalement guéri de la tuberculose. Et je voudrais attirer l'attention aussi parce que la tuberculose, c'est une affaire de tous. La tuberculose n'est pas, je vais dire quoi, une fois qu'on a la tuberculose, on n'est pas immunisé. La tuberculose, tu peux la faire, tu peux la refaire, tu peux la refaire en fait. Donc il faut veiller à son environnement, il faut veiller au minimum des règles, au strict respect des règles barrières, des règles d'hygiène. Et on n'a pas abordé la question du BCG, mais je sais que certaines personnes vont se poser la question, mais nous qui avons pour le BCG à la naissance, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir la tuberculose? Non. On peut faire la tuberculose parce que le vaccin du BCG permet simplement de limiter de faire les formes sévères en cas de contamination en fait. Donc il faut qu'on vaccine les enfants pour que s'il arrive que l'enfant est contaminé ou bien que la personne est contaminée, qu'elle ne fasse pas la maladie au plus haut degré, qu'elle n'arrive pas au niveau très compliqué en fait. Donc ça permet simplement de limiter le degré de faire la maladie. Donc il faut se faire vacciner, il faut veiller aux règles d'hygiène comme je disais, il faut aérer la maison. Parce qu'on ne sait jamais, quelqu'un peut passer là et qu'il a vu la tuberculose et s'il a toussé, le germe reste là. Si tu es dans une maison totalement fermée, c'est un problème parce que si le germe reste là, tu vas l'inhaler et c'est comme ça que tu vas faire la maladie. Donc, c'est pas la sorcellerie. Si le germe reste dans une pièce fermée, lui, il ne meurt pas. Il va forcément se répandre au travers de la personne qui va entrer après. Donc, il faut aérer la maison, il faut se laver les mains, il faut tousser dans le coude, tousser dans un mouchoir. Voilà. Donc, si on respecte ces minimums de règles-là, on devrait pas rencontrer le bacille de Cox sur notre route.
C'est un nom qui que nous n'aimons pas trop, bacille de Cox. Il est bien vrai que c'est le monsieur qui a découvert ce bacille là s'appelait Cox, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. En tout cas, c'est de façon très timorée qu'on parle du bacille de Cox dans notre contexte qui est celui d'une santé peut-être pas à 100% mais très précaire vu les moyens disponibles dans nos pays en développement. C'était la grande interview, c'était Rosine Yemele, c'était Jean-René Mevamou accompagné de Josué Nabral. C'est Monsieur Josué Nabral, comme on dit. Allez, merci de rester sur la radio.
Tout savoir sur Radio Intégration.
Rendez-vous sur le site
www.journalintégration.com
et découvrez toute notre actualité.
Toute notre actualité.
Nos émissions. Notre équipe et nos programmes.
Radio Intégration, la voix des communautés.
Édition spéciale.
Grande interview sur Radio Intégration.
www.radiointégration.com.
Les questions relatives à l'intégration en Afrique centrale.
L'évolution du processus de l'intégration
en Afrique centrale.
Libre Antenne, c'est sur Radio Intégration.